Je suis en compagnie de Patrick Deville. Nous parlons de votre nouveau livre Samsara qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Nous sommes dans la rentrée de septembre 2023. Votre nouveau roman sans fiction, Patrick Deville, est le 9e épisode de votre projet Abracadabra. Il débute au Kerala sur une plage. Vous regardez un héron gris et blanc et vous écrivez « Fumant assis sur un muret ». Je soupçonnais qu'une manière de vague conscience ne lui faisait pas défaut. Pourquoi vous retrouvez-vous sur cette plage après avoir séjourné à Tahiti pour votre précédent livre, Fenua ?
Bonjour. Eh bien, alors, vous le savez, mais je le répète tout de même, ces livres, à la fois, sont indépendants, enfin, sont pas, justement, indépendants, mais enfin peuvent être lus indépendamment les uns des autres, même dans le désordre. Mais enfin, néanmoins, Abracadabra est un livre unique dans mon esprit. Il y a des liens et il se trouve que le précédent Fenua se terminait par une nage dans le lagon de Bora Bora en Polynésie. Et la dernière phrase était... observant les jardins de corail nageant à la surface, une réflexion sur les poissons, enfin la beauté sous-marine. Et si on tourne la page, enfin si ces livres étaient, ils le seront un jour, je l'espère, publiés, conjointement rassemblés, en tournant la page, on a le titre du suivant. Samsara, qui commence également par une expérience de nage, mais cette fois sur la côte de Malabar, à l'ouest de l'Inde. Et quant à cette histoire de conscience du héron, c'est aussi d'emblée pour introduire ce sujet du samsara, puisque le samsara, c'est dans plusieurs religions asiatiques cette croyance en la réincarnation successive, et pour certains même éventuellement en oiseau.
J'y vois aussi le lien avec Pierre Loti, qui était le précédent héros de Fenua, et on en avait beaucoup parlé. Il a remis en 1900 une médaille à l'aïeul de la princesse de Travancore, qui est votre première interlocutrice dans Samsara.
Oui, là encore, alors ça n'était pas le personnage principal de Fenua, Loti, mais c'était un personnage très important. Je ne sais pas qui était le personnage principal de Fenua. Fenua était un livre choral remontant de 1860. Le frère de Pierre Loti, Gustave Vuot, prend le 15 août 1860 la première photographie de Tahiti. Et à partir de là, mais enfin je remontais même avant à Bougainville, la découverte de l'île, etc., mais... oui, puisque sans Pierre Loti, il n'y aurait pas eu de Paul Gauguin à Tahiti. Alors, il n'y avait pas réellement de personnage principal. Je suivais tous ces personnages chronologiquement. Et Pierre Loti, dans mon esprit, Pierre Loti n'a jamais été réellement sur le devant de la scène, comme Alexandre Yersin ou Malcolm Lowry. Mais il est très souvent présent dans ses livres. Et là encore, comme il était, enfin, il est présent dans Kampuchea, il est présent dans Peste et Choléra, etc. On pourrait reconstituer la vie de Loti en l'extrayant de ses 9 livres. Et parce qu'il y a ce parcours de Loti, j'avais souhaité rencontrer cette princesse de Travancore, qui est aujourd'hui une vieille dame, qui est la sœur du Maharaja de Travancore. Et donc, Pierre Loti était venu au Kerala, à Trivandrum, remettre une médaille, envoyée par l'Académie française à ce moment-là, remettre une médaille au Maharaja de l'époque. Ce sont des rêves d'enfants, en fait. Enfin, il y a ça dans Loti, puis il y a ça dans ses livres. Ce sont des histoires d'enfants, histoires de tigres, de maharajas, d'éléphants.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Patrick Deville, cette rencontre avec la princesse de Travancore ? Parce qu'elle fait rêver.
Oui, alors, comment, c'est donc une vieille dame qui m'a reçu en son palais. Je souhaitais voir le palais en imaginant le tir rencontrant le Maharaja. Il se trouve que le palais Khodiar où elle m'a reçu est un palais plus récent, bâti dans les années 1930, peu avant la naissance de cette princesse. Mais ensuite, elle m'a renvoyé sur le palais familial historique où Loti avait été reçu, et surtout au temple qui est à côté. Et il y avait deux, comment, actualités. Une brûlante, c'est que au moment où je la rencontre dans ce palais fin février 2022, c'est juste au moment où on apprend que la Russie vient d'envahir l'Ukraine, et cette vieille dame qui connaît très bien Londres était affolée et me décrivait, enfin elle imaginait les habitants de Londres réfugiés dans les tunnels du métro sous les bombes russes, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin c'était les bombes allemandes quoi. Donc d'une part je lui dis qu'il semblerait, selon les journaux, que nous n'en étions pas encore là. Et puis l'autre actualité, mais elle est un peu plus ancienne, mais tout de même bien après, puisque Loti lui vient en 1900, et ce temple qu'il décrit dans ce livre L'Inde sans les Anglais, évidemment il n'a pas pu entrer à l'intérieur, mais 10 ans avant ma venue, moi, on avait pour la première fois entrepris des fouilles à l'intérieur, enfin dans les sous-sols de ce temple, avec énormément de difficultés administratives, religieuses, etc. Et qu'on y a mis à jour un trésor absolument fabuleux, puisque enfin, des centaines de tonnes d'or, de diamants, de bijoux, de monnaies de toutes les civilisations. Ce qui en Inde a entretenu une espèce de suspense pendant longtemps, quoi faire. Enfin, le trésor de ce seul temple correspond au PIB d'un pays pauvre, quoi. Et finalement, la Cour suprême de l'Inde venait de prendre la décision de restituer la garde de ce trésor à cette famille des Maharajas de Travancore. Le Travancore, bien sûr, n'étant plus un État, un royaume, ni un. Depuis, me semble-t-il, enfin l'indépendance de l'Inde, c'est 1947. Je crois que c'est 1949. Voilà, ce petit royaume a été intégré à l'État du Kerala et donc à l'Union indienne. Donc là encore, ce sont des histoires d'enfants de rencontrer cette vieille princesse qui me racontait, qui se souvenait que toute petite princesse, très jeune, on venait de lui offrir un appareil photo avec lequel elle avait photographier Lord Mountbatten, qui était à l'époque le vice-roi des Indes. Enfin, tout cela sont, oui, sont des histoires d'enfants.
Alors, j'aimerais aussi lever une interrogation, puisque chronologiquement, vous écrivez, c'est 2 ans, donc votre arrivée au Kerala, c'est 2 ans avant mon arrivée au Kerala, et plus au nord, que j'avais atterri au milieu de la nuit à Bombay, au Mumbai. Et là, j'aimerais que vous nous expliquiez cette phrase, je mettais fin à un sortilège qui depuis des années m'interdisait l'Inde. Mais quel est donc ce sortilège?
Non, non, mais j'en parle plus tard dans le. Enfin, dès ce chapitre, d'ailleurs, je mentionne que j'avais le projet 40 ans plus tôt d'atteindre Bombay à la voile depuis la côte arabique, depuis le sultanat d'Oman. Et bien plus loin dans le livre, je rappelle cette. Mais j'étais très très naïf, puisque à l'époque j'étais très jeune et je travaillais à l'ambassade de France à Mascate, dans le sultanat d'Oman. C'était au début des années 80. Le pays était absolument interdit aux étrangers et 3 navigateurs français avaient dématé en mer en se rendant en Inde. Et donc, bon, ce sont les lois de la marine, même si le pays était interdit, on les avait amenés dans le port où ils ont attendu pendant des mois l'envoi d'un nouveau mât. Et donc, évidemment, j'étais devenu camarade puis ami avec eux. Et quand enfin le nouveau mât est arrivé, ils m'avaient proposé de faire la traversée. Moi, je naviguais, enfin, pas à ce moment-là, mais enfin, plus. J'ai toujours navigué à la voile, ça, c'est dans Fénois. et j'avais imaginé pouvoir me joindre à eux pour faire cette traversée de la mer d'Oman, depuis Mascate jusqu'à Bombay. Et bien évidemment, j'étais d'une grande naïveté, l'ambassadeur de France à l'époque me l'avait interdit.
Alors il est temps de faire connaissance avec un des deux protagonistes de votre livre, Pandurang Kangkoj. Voici ce que vous écrivez sur lui et on comprendra peut-être ainsi pourquoi vous vous êtes intéressé à cette figure. En freignant la superstition des brahmanes de ne jamais aller sur la mer, entreprise susceptible d'enrayer le cycle des réincarnations du samsara, il embarquait Kouli dans le rôle d'équipage. Ce jeune marat orgueilleux de haute caste deviendrait un combattant indépendantiste, puis un agronome au service des paysans. C'est alors un homme jeune à la peau sombre, robuste et pas très grand, tout en force ramassée. Lorsqu'il monte à bord du Yara en 1906, il ignore qu'il est parti pour un tour du monde Est-Band, de Bombay à Bombay, en passant par la Cochinchine, le Japon, la Californie, le Canada, New York, la Grèce, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, jusqu'aux frontières de l'Afghanistan et du Baloutchistan. Et ce premier tour du monde lui prendrait déjà 13 ans de sa vie. Est-ce ce premier tour du monde qui, au premier abord, vous a intéressé chez lui? Parce que toute une partie de votre livre, Patrick Deville, c'est de mener une enquête et de retrouver des éléments de son existence.
Oui, bon, comme l'écrivait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Mais néanmoins, c'était un cadeau de tomber sur l'existence de cet Indien, inconnu des Indiens, comme je le mentionne, puisque c'est un homme, ce que vous venez de lire, c'est-à-dire qu'il quitte très jeune, c'est un révolutionnaire indépendantiste, il quitte très jeune l'Inde avec le projet de mener depuis l'extérieur un combat indépendantiste. Ça va mal se passer, c'est une vie extrêmement rocambolesque. Et finalement, il va passer la majeure partie de sa vie au Mexique avant de rentrer en Inde. Il rentre en Inde vieillard, en fait, quelques années pour y mourir. Et, mais j'ai découvert l'existence de cet homme au Mexique, puisqu'il est lié à la petite bande de Frida Kahlo, Tina Modotti, Diego Rivera, et donc petite bande dont j'avais écrit l'histoire dans le livre mexicain, Viva, et retrouvant ce personnage, ce qui lie également ces livres entre eux, et c'est un perdant de l'histoire comme j'aime en trouver, enfin extrêmement romanesque, avec une vie rocambolesque, puisque il va avec ce principe que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, il va combattre auprès des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, et évidemment, comme eux, perdre cette guerre et ne jamais envahir l'Inde.
Parce que, bien entendu, vous l'avez rencontré par le hasard et vous y étiez préparé, et donc c'est par notamment vos séjours au Mexique, votre livre Viva, qui se passe au Mexique, que vous avez identifié ce personnage. Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'il a fait le tour du monde à la fois d'un côté par l'Ouest, et après il l'a fait aussi par l'Est. C'est-à-dire, c'est le sens de votre projet.
Oui, ça j'ignorais évidemment la vie de Pandurang avant de me lancer, moi, dans ce projet de deux tours du monde, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Oui, mais voilà, moi j'écris ce projet depuis un peu plus de 25 ans. Lui a mis plus longtemps encore à boucler ces deux tours du monde.
Néanmoins, le point commun est véritablement troublant. Est-ce que je cherchais des explications sur pourquoi vous êtes intéressé à ce personnage? Et on peut vraiment lire votre livre comme étant une enquête sur cette figure, puisqu'elle est inconnue, comme vous venez de le dire, des Indiens eux-mêmes. Alors, il y a un autre élément, moi, pense que vous avez été emmené sur cette enquête sur Pandurang Kangkoj, c'est notamment ces grandes différences d'avec le second protagoniste de votre livre, qui lui est immensément connu, c'est Gandhi. Et vous les faites tous les deux se croiser à chaque fois, comme à votre habitude. Vous prenez une date et vous nous racontez ce que chacun des protagonistes faisait à cette même date pour avoir la concomitance chronologique de ces deux figures, celle d'un révolutionnaire oublié et celle, bien entendu, de l'immensément connu Gandhi.
Oui, c'est surtout là les deux options de la violence dans l'histoire ou de la non-violence. Gandhi étant le héros mondial de la non-violence et Han Roy, lui, c'est plus classique. C'est un révolutionnaire qui entend combattre les armes à la main et qui donc suit en Californie une école militaire. Il commence à se former aux explosifs au Japon auprès des révolutionnaires chinois de Sun Yat-sen, et puis ensuite il devient réellement un militaire, il suit une académie militaire, donc c'est le classique de la violence dans l'histoire. Et par-delà cette opposition violence-non-violence, c'est ce modèle, et comme vous le savez, enfin, dans chacun de ses livres, c'est cette idée de mettre des vies en parallèle à la Plutarque, enfin sur le modèle de Plutarque. Des deux héros, ou un perdant ou un gagnant, enfin, ou sur des sujets. Donc là, le parallèle plutarchien entre ces deux personnages, c'est la violence et la non-violence, avec le point commun que tous les deux luttent pour l'indépendance de l'Inde. Mais c'est le même modèle que Malcolm Lowry et Léon Trotsky au Mexique. Mais là, c'est plutôt la question de l'engagement ou pas dans l'histoire. Lowry regrettant de ne pas s'engager dans l'histoire, la guerre d'Espagne, et Trotsky rêvant d'écrire de la littérature une fois qu'il ne serait plus engagé dans l'histoire. Et c'est le parallèle des vies d'Alexandre Yersin et d'Arthur Rimbaud dans Peste et choléra, qui là était l'interrogation du génie. Le génie scientifique d'un côté, le génie poétique de l'autre. Donc cette construction parallèle, c'est un peu... C'est un peu ce qu'il y a de commun également à tous ces livres.
Parce qu'on aurait pu imaginer que Pandurang Ranroy, lui, aurait pu avoir un destin avec succès. Or, celui qui a connu le succès dans les actions, dans son mode d'action, c'est Gandhi. Et l'autre figure a connu que, on va dire, que de l'insuccès. Et ça, c'est toujours resté au stade de groupuscule.
Oui, ce mouvement Gadar Movement, fondé en Californie, bon, sont tout de même des milliers de combattants éparpillés sur la planète. C'est pas un groupuscule. Ce sont des milliers de combattants armés par les Allemands, armés par les Japonais ensuite. Mais oui, l'échec. Alors, échec ou réussite. Bon, il se trouve que le héros violent... mourra dans son lit et très vieux, et que le héros de la non-violence mourra assassiné de 3 balles à bout portant. Et il y a cette question, en effet, oui, de l'échec ou de la réussite. Il n'empêche que lui verra l'Inde indépendante que ne verra pas, quasiment vue. Gandhi, mais il est assassiné au tout début de l'indépendance.
Est-ce que vous pouvez nous parler des Gadaristes, ce Gadar Movement qui a pris lieu en Californie et qu'après qui a tissé comme ça toute une toile révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, parce que c'est un mouvement qui est assez peu connu.
Oui, bien sûr. Enfin, sauf des historiens du Gadar. Hein, oui. Voilà, et comme il n'y a pas vraiment... Enfin, moi j'ai lu des historiens indiens écrivant en anglais. Je n'ai même pas cherché ou vérifié. Moi je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de traductions d'historiens sur l'histoire du mouvement Gadar en français, puisque c'est une question qui nous concerne peu. Géographiquement, historiquement. Et d'autre part, ce Gadar, donc, il est créé avant la Première Guerre mondiale. Et Il devient illégal aux États-Unis au moment où les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1917. À ce moment-là, les gadaristes qui étaient tolérés aux États-Unis deviennent des traîtres puisqu'ils combattent auprès des Allemands. Donc c'est une existence assez brève. Et à part quelques historiens spécialistes de ce mouvement. Mais il a été mondial tout de même, puisque le but du Ghana était d'encercler l'Inde, c'est-à-dire ce héros, Pandurang Ranroy, lui, il participe à cette troupe qui, avec les Allemands, depuis l'actuelle Turquie, enfin l'Empire ottoman, envahissent la Perse puis le Baloutchistan pour pénétrer l'Inde, pour attaquer l'Inde par l'actuel Pendjab. Mais de l'autre côté, il y avait des combattants qui, depuis le Japon, la Malaisie, l'actuelle Birmanie, voulaient envahir l'Inde par le Bengale. Mais évidemment, ça a échoué des deux côtés.
Il y a une étrangeté dans votre livre. On comprend qu'avec celui-ci, vous faites étape en Inde. Or, en suivant ces deux figures qui cherchent l'indépendance de l'Inde, mais ces figures, elles sont surtout extérieures à la géographie indienne, puisque nous suivons avec vous ces deux protagonistes, mais nous suivons sur leur pas hors de l'Inde, et surtout hors de l'Inde. Et avec eux, nous avons plutôt accès à une géographie mondiale. Et j'ai trouvé que c'était assez paradoxal, justement, votre étape en Inde. Vous, vous y étiez, et vous nous racontez ces lieux, vous nous racontez les rencontres grâce auxquelles vous avez pu mener cette enquête. Mais vos deux protagonistes, eux, ils sont très rarement, voire pas.
Ah bah, tout de même, Gandhi, même s'il y a toute la première partie de sa vie qui est à Londres, où il fait les études pour devenir avocat, et puis ensuite il y a son épanouissement politique en Afrique du Sud, ses premiers combats en Afrique du Sud. Mais Gandhi décide de... c'est-à-dire au moment, enfin, déclenchement de la Première Guerre mondiale, au moment où justement, d'un côté, les gadaristes obtiennent le soutien des Allemands pour entrer dans la Première Guerre mondiale et lutter contre les Anglais au Moyen-Orient, Gandhi, lui, au contraire, prend la décision de rentrer en Inde. Gandhi ne veut pas profiter des malheurs de l'Angleterre. C'est le moment qui les sépare. Mais Gandhi, tout de même, il rentre en Inde en 1915. Donc lui, il est sur place. De 1915 à son assassinat en 1948, il est en Inde. Avec de multiples voyages, séjours, évidemment. Hein. Il est souvent à Londres.
Alors, dans cette histoire de recherche de l'indépendance de l'Inde, il y a une troisième figure qui va souvent être croisée, notamment par Gandhi. Il s'agit de Rabindranath Tagore, qui est un grand poète, un grand écrivain, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1913. Voici un passage qui va nous parler de ce lien entre ces deux figures. C'est Tagore qui avait donné à Gandhi le nom de Mahatmata, la grande âme. En retour, Gandhi désignait le poète de grande sentinelle. Derrière ces louanges réciproques, beaucoup les opposent. Le cosmopolitisme élitiste du poète, le soin aristocratique qu'il portait aux objets qui l'entouraient comme à la coupe de ses vêtements. Tagore ne filait pas aux rouets, ni ne portait le caddie. La grande sentinelle aux longs cheveux bouclés dominait d'une tête le frêle prophète, enroulé dans son drap blanc. On pourrait faire aussi une histoire de l'Inde par les relations qu'entretiennent ces deux figures.
Oui, ce sont des hommes extraordinaires. Alors Tagore, c'est la réussite, c'est la très grande réussite intellectuelle, poétique. Peut-être moins aujourd'hui, peut-être le lit-on moins, mais enfin c'est un immense écrivain. Et pas seulement, enfin c'est un immense écrivain, immense poète, c'est un écrivain de théâtre. C'est un metteur en scène, c'est un peintre d'importance, c'est un compositeur de chansons. Aujourd'hui, enfin, l'hymne national de l'Inde et une autre chanson, l'hymne national du Bangladesh, sont des chansons écrites par Tagore. et puis une grande réussite intellectuelle avec la fondation par Tagore de cette université à Santiniketan, où tout le monde est passé. Enfin, c'est ce but d'unir intellectuellement l'Orient et l'Occident dans ce lieu retiré du Bengale, où ils fondent une université. Donc c'est une... Et ce qu'il y a peut-être de tragique dans la vie de Tagore, c'est qu'il naît en 1861, juste au moment de l'installation du Raj britannique, qui fait de Calcutta la capitale de l'Inde britannique, et il meurt en 41, donc il vit très vieux, 80 ans, mais il meurt en 41 avant l'indépendance de l'Inde. Tagore, tout au long de sa vie, n'a jamais connu l'Inde indépendante du joug britannique.
Et alors, vous avez ce beau passage où vous réunissez à la fois Rabindranath Tagore en 1940, à la fois Mohandas Gandhi, à la fois Nehru et à la fois un autre personnage que nous connaissons assez peu mais qui est célébré en Inde, Subhas Chandra Bose, qui lui fait également d'autres choix que Pandurang Ranroj. Lui, à un moment donné, pour la Seconde Guerre mondiale, va plutôt s'allier aux nazis, et c'est une voie qu'il a choisie pour l'indépendance de l'Inde.
Non, c'est exactement le même choix. Hein. Et à la différence c'est le même choix de s'allier aux Allemands au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est mais au moment où Ranroy, lui, est au Mexique, lui, il est combattu réellement auprès des Allemands au Moyen-Orient et en Perse pendant la Première Guerre mondiale, au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà au Mexique, il est en train de devenir, il devient un scientifique très important, il reprend son vrai nom, il a vécu sous pseudonyme pendant très longtemps, clandestinement, mais il reprend son vrai nom, et sous son vrai nom, et obtenant la nationalité mexicaine, il devient un scientifique agronome très reconnu. Subhas Chandra Bose, lui, alors la différence, c'est que si Ranroy est totalement oublié en Inde, lui, pourtant vaincu également, est toujours un héros en Inde. Il combat auprès des nazis, enfin plutôt auprès des Japonais. Il combat auprès des forces de l'Axe. Il se rend à Berlin, il rencontre Hitler et Himmler, il crée une légion. Mais ensuite, c'est avec le soutien des Japonais qu'il crée une armée indienne, là encore avec le but d'envahir l'Inde, mais de l'autre côté, par le Bengale. Et il est toujours, lui, un héros reconnu en Inde.
Et est-ce que Pandurang Chanchoy, Ranroy, est un peu reconnu au Mexique pour ses travaux scientifiques? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est toute la fin de sa vie, enfin, toute une grande partie de sa vie au Mexique, où il devient scientifique, où il s'intéresse à l'agriculture, à l'agronomie.
Oui, et à la génétique naissante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il devient Alexandre Yersin. Enfin, voilà, c'est ce qui m'intéressait, parce qu'il est distinct complètement, c'est qu'Yersin, lui, se lavait les mains de l'histoire. Il ne s'est jamais impliqué, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais à la fin de sa vie, la deuxième partie de sa vie, enfin, il devient un scientifique mexicain très important, très reconnu. Et pendant que j'écrivais le livre, puisqu'on m'a aidé depuis le Mexique, comme je le mentionne dans le livre, pour cette histoire, et au moment où moi je terminais d'écrire ce livre, on inaugurait dans la Escuela de Agricultura de Chapingo à Mexico, un buste en bronze de Pandurang Ranroy tenant un plant de maïs, reprenant une photographie de Tina Modotti d'ailleurs. Et donc il est maintenant, il l'était déjà, mais enfin maintenant il y a un monument à la gloire de cet Indien dans l'école d'agriculture de Mexico.
J'ai lu votre livre comme peut-être celui que j'ai perçu le plus directement politique, même si dans Viva il y était question, mais c'est peut-être d'une autre manière. On assiste véritablement dans Samsara à différentes voies incompatibles pour la lutte politique, et c'est peut-être ainsi que j'explique votre titre, Samsara, la roue du destin, c'est voir quelle voie va être choisie et quelle autre voie vont se rendre incompatibles à l'histoire politique. Est-ce pour cela que vous avez voulu l'appeler de ce titre-là?
Oh, le choix du titre, je ne sais plus exactement. D'abord, mais ce n'est pas très difficile, comme vous le savez, tous ces livres se termineront, mais voilà. Partout dans le monde, on peut trouver un titre qui se terminera. Non, ça m'est venu d'abord parce que ça apparaît quand même souvent et dans les textes de Gandhi et donc Ran Roy lui aussi est un brahman, tous ces gens sont des hindouistes, donc voilà, le titre m'est venu assez naturellement, puis je voulais introduire cela avec cette négation au contraire, enfin cette phrase de Rimbaud dans sa correspondance rappelant que il n'y a que cette vie est la seule et que cela est évident, qui est l'anti-samsara. Mais par contre, non, enfin, vous me permettrez de ne pas du tout partager votre avis sur le fait que ce serait le livre le plus politique. Ces livres ne sont pas des essais historiques ou politiques, mais il y a également ce volet, central ou pas central, mais dans Fénois, reprenant l'histoire de la Polynésie française, ça avait tout de même jusqu'au dernier procès de Gaston Flos, et puis j'ai rencontré Moetei Brotherson. À la fin de Fénois, il y a cet entretien avec Moetei Brotherson, qui à l'époque était député et numéro 2 du parti indépendantiste, et qui vient d'être élu, là, il y a 2 ou 3 mois, gouverneur de la Polynésie. Évidemment, Viva avec Trotsky... et Laurie, et la guerre d'Espagne, mais enfin Équatoria, les compétitions entre les explorateurs français, anglais, etc., ça allait jusqu'à les guerres d'Angola. Enfin, je crois que cet aspect positif, ou politique, je veux dire, est assez présent, même si ça n'est pas le sujet des livres.
Oui, c'est que là, j'ai trouvé que c'était très directement inscrit dans ces personnages même et dans leur recherche, puisqu'ils cherchent l'indépendance de l'Inde, et donc ils cherchent à avoir une sorte de compétence politique, ou en tout cas une recherche d'efficacité politique pour se débarrasser de la tutelle anglaise. J'aimerais qu'on termine sur le regard, après cette enquête sur les traces de Panduranga en Roge, quel regard avez-vous sur son parcours? Entre les lignes, on vous sent plein de tendresse pour ce personnage.
Oh, tendresse, c'est beaucoup dire, mais disons, on ne peut pas écrire là. Je n'écris pas de fiction, alors on n'écrit pas des vies sans une certaine empathie. Il y a des héros positifs, il y a des héros négatifs. William Walker, le premier pour la vida, est un héros, enfin est un salaud absolu, mais néanmoins pour l'intérêt, c'est tout de même de pénétrer cette personnalité, d'imaginer, d'essayer de percer, de comprendre quels en sont les ressorts. Mais je crois que ça, s'agissant et de la politique et des aventuriers, le chapitre le plus important de Samsara, c'est celui qui est intitulé « Au creux de la vague ». J'avais déjà exprimé cette idée depuis des dizaines d'années. Je cherche, dans tous ces personnages qui ne sont pas des personnages de fiction, quelles sont à la fois les motivations et les fêlures, et les limites, le moment aussi où ils jettent l'éponge, le moment de l'aquabon. Et là, je reprends en un chapitre, ces personnages qui finalement, parce qu'on est toujours d'une époque, enfin on est toujours quelque part dans l'histoire et quelque part dans la géographie, on apparaît quelque part dans un moment de l'histoire d'un lieu géographique, et alors on s'empare, parce que la première motivation c'est quand même, enfin Voilà, ce goût de la guerre qui est au cœur des hommes, ce goût de l'épopée qui est au cœur des poètes. Et là, dans ce chapitre, je reprends à la fois, évidemment, Han Roy, en me demandant, quand, lorsqu'il est au creux de la vague, à Berlin, avant de s'enfuir, je ne sais pas comment d'ailleurs, il est passé de Berlin à Mexico, mais s'il était resté là, s'il avait connu l'amour, s'il avait fondé une famille, qu'est-ce qu'il serait devenu au moment de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que lui aussi, comme plus tard Beauce, se serait engagé auprès des nazis? Et puis je mets ça en parallèle avec Lawrence d'Arabie, qui au même moment, en 1922, quand Pandurang, vaincu, est à Berlin et tourne en rond, ne sait plus quoi faire. Enfin, en 21, il est allé rencontrer Lénine à Moscou, parce qu'il a côtoyé les grands de ce monde. Sun Yat-sen au Japon, Lénine à Moscou. Et puis là, il tourne en rond, il ne sait pas quoi faire. Et en cette même année 22, où il tourne en rond, c'est le moment où Lawrence d'Arabie, enfin, Thomas Edward Lawrence, qui lui est du côté des vainqueurs, qui a gagné la Première Guerre mondiale, finalement, lui jette l'éponge, choisit un faux nom et s'engage alors qu'on veut l'envoyer, diriger le comment ça s'appelait, enfin l'Égypte, haut commissaire, l'Égypte anglaise. Et finalement, sous un faux nom, il pousse la porte d'une caserne dans la banlieue de Londres et il s'engage sous un faux nom comme soldat de deuxième classe et il recommence à zéro. Et un an plus tard, Trotsky, qui est au fait à Moscou de son pouvoir, Lénine est au bord de la mort, qui doit succéder à Lénine, finalement, très curieusement, d'un coup, jette l'éponge, quoi, prend le train et part au bord de la mer Noire, on ne sait pas pourquoi. Et quand Lénine meurt, il reste là, au lieu de remonter alors qu'il pouvait s'installer au pouvoir. Et dans ce chapitre, je mentionne également... voilà Che Guevara, qui revient aussi dans beaucoup de ses livres, et Oussama Ben Laden, de la même façon, enfin, quand j'étais allé à Khartoum, enfin en face, de l'autre côté du Nil, à Omdurman, je me posais cette question au moment où, il y a un moment où il n'est plus rien, au milieu des années 90, Ben Laden, et puis là il fait des expérimentations agricoles lui aussi, il entraîne des hommes, etc., et puis il y a toujours comme ça des moments dans la vie de ces aventuriers où quelque chose, parfois ils laissent aller ou bien brutalement reprennent le combat parce que ça ne les satisfait pas. Et donc voilà, Oussama Ben Laden qui à ce moment-là n'est plus rien, finalement s'enfuit vers le Pakistan, gagne l'Afghanistan, est accueilli par les Moudjahidines et devient ce type dont on s'arrache les t-shirts en Afrique comme en Europe. Certains portent encore des t-shirts à l'effigie de Che Guevara. C'est surtout cette interrogation à la fois critique et admirative de ces vies romanesques.
Ma dernière question portera sur la géographie. On en est au 9e volume d'Abracadabra. Et on est déjà en Inde. On n'est pas si proche on est assez proche tout de même de la France. Et je me pose la question des trois prochains volumes. Par où vont-ils vous amener?
Tout cela, comme vous le savez, est prévu depuis 25 ans. Sauf l'Inde. Ça a été le seul déroutage, je l'écris dans le livre, puisque j'avais prévu l'Inde après Équatoria. Équatoria se termine à Zanzibar et je pensais traverser la flaque de l'océan Indien pour écrire à ce moment-là l'Indien en face. Et j'avais enjambé l'Inde. J'étais sauté par-dessus quand j'avais appris que le procès des Khmer Rouges allait ouvrir à Phnom Penh. Et donc j'ai écrit Kampuchea pendant 3 ans autour du procès des Khmer Rouges à Phnom Penh. Et comme je ne voulais pas, c'était le seul déroutage, mais comme je ne voulais pas revenir en arrière dans ces tours du monde, j'avais donc décidé que l'Inde, ce serait au deuxième tour du monde dans l'autre sens. Donc depuis la Polynésie, Fénois, remontant au nord-ouest vers l'Inde, et maintenant je suis sur le chemin du retour, bien sûr. toujours vers l'ouest, le nord-ouest. Et de la même façon que Samsara commence avec cette nage au Kerala, qui est la suite de la nage à Bora Bora dans Fénois, le dernier paragraphe de Samsara annonce le prochain livre. Et là, je viens de passer l'hiver dans la péninsule arabique, puisque, voilà, un peu plus au nord-ouest, c'est maintenant la péninsule arabique, enfin l'Arabie.
Merci beaucoup, Patrick Deville. Merci.